France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quatrième épisode de notre série sur les philosophies asiatiques. Nous parlons ce matin du Japon, de ses grands courants de pensée, de l'idée de modernité qui alimente là-bas depuis longtemps réflexion et polémique. Les 23 et 24 juin 1942, s'est tenu à Tokyo un symposium intitulé « Dépassement de la modernité ». Cet événement a réuni à l'époque des penseurs japonais qui, assez bien immergés dans l'ultranationalisme et le militarisme autoritaire qui sévissait depuis les années 30, voulaient aller toujours plus loin et bannir une modernité assimilée à ce qui nous vient de l'étranger, c'est-à-dire de l'Occident. Comme l'a bien vu une figure profondément dissidente de l'époque, l'intellectuel Maruyama, c'était très suspect, parce que cela supposait, je le cite, que vraiment, le Japon de cette époque s'était modernisé au point de devoir poser comme question prioritaire celle du dépassement de la modernité. De plus, cela mettait commodément un couvercle sur les évolutions modernes spécifiquement japonaises et non pas seulement importées de l'étranger, que le Japon avait connues notamment entre le XVIIe et le XIXe siècle. En réalité, ce symposium de 1942 correspondait à l'une des multiples instrumentalisations au Japon du concept de modernité. Contre cette facilité grossière, Maruyama, qui est un des plus grands penseurs japonais du XXe siècle, aide à réfléchir dans l'histoire du Japon à la tension féconde entre tradition et réinvention. Ces enjeux sont au cœur de notre émission de ce matin. Bonjour, Frédéric Girard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous êtes directeur d'études émérite de l'École française d'Extrême-Orient. Vos travaux portent notamment sur l'histoire du bouddhisme au Japon. Avec vous, nous réfléchirons à ce que sont les grandes traditions japonaises, souvent mêlées, il est vrai, à des apports extérieurs. Le bouddhisme, notamment, n'est pas né au Japon, mais réélaboré sur un mode spécifiquement japonais. Bonjour Jacques Joly.
Bonjour.
Bienvenue aussi, vous avez une formation de philosophe en France et vous avez accompli votre carrière universitaire au Japon, près d'Osaka, en vous spécialisant dans l'étude de la période même qui intéressait Maruyama, l'époque d'Edo, du XVIIe à la moitié du XIXe siècle, et vous avez traduit Maruyama. On peut trouver dans votre traduction aux belles lettres en 2018 ses essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon. Modernité, modernité, c'est une grande affaire au Japon, on en parle souvent. Alors je crois que c'est utile de replacer les choses dans leur histoire. L'ère Meiji de 1868 à 1912, souvent considérée comme une apothéose de la modernité, qu'est-ce que c'était exactement, Jacques Joly?
Qu'est-ce que c'était? Une apothéose de la modernité, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. En tout cas, c'est le commencement d'un processus ou la continuation d'un processus qui déjà s'était engagé dans les années 1800, fin des années 1840 et dans les années 1850, quand les bateaux américains s'étaient rapprochés du Japon, c'était le commodore Perry qui s'était occupé de la flotte américaine. Qui voguait, disons, sur les côtes, près des côtes japonaises, et qui avait exigé l'ouverture commerciale du Japon. Alors, à partir de là, tout un processus s'était enclenché. C'est pas la peine d'en expliquer les détails, mais disons que cela est arrivé à une contestation du pouvoir shogunal qui a très mal réagi.
Alors
à
shogunal, ça veut dire féodal un peu pour les occidentaux.
Le pouvoir du shogun, oui. C'est-à-dire le premier des samouraïs, le seigneur en chef, si on veut. Qui avait pris, c'est une dynastie shogunale, la dynastie des Tokugawa, qui en 1603, à partir de 1603, avait, disons, assis son pouvoir sur à peu près tout le Japon, enfin une grande partie, et donc de père en fils, il s'était succédé, si on veut, jusque 1868. Et ils vont perdre ce pouvoir.
Oui, c'est l'empereur qui va.
L'empereur.
Revenir.
Premier. L'empereur dont le pouvoir avait été très affaibli dans les siècles précédents va être installé. Son pouvoir va être réinstallé. Alors, c'est pour ça qu'on dit la restauration de Meiji. C'est d'abord la restauration de l'empereur, donc et de ses prérogatives.
Ça, c'est pas très moderne, a priori. Non, pas du tout. Voilà.
Justement.
Mais alors, pourquoi dit-on qu'il y a eu une modernisation dans tous les domaines, mais nous allons aussi parler dans le domaine des idées, pendant cette période Meiji?
Une modernisation parce qu'il y avait la menace que faisait peser l'Occident sur le Japon, menace d'être envahi. Le Japon avait déjà connu une première crise avec au XVIe siècle, début XVIIe, avec l'expansion du christianisme. Le christianisme s'était étendu à une vitesse éclair dans la majeure partie du Japon, enfin en tout cas surtout dans le Kyushu d'ailleurs, dans l'île qui est au sud du Japon. Il y avait pratiquement des menaces existentielles, oui, sur le shogunat. Alors ça, c'était simplement avec une religion, avec le christianisme, parce que beaucoup de seigneurs s'étaient convertis au christianisme. C'est une époque un petit peu étudiée, oui. Frédéric.
Restons un peu sur Meiji. Il y a quand même une ouverture pour précisément éviter, d'après ce que vous dites, que l'Occident vienne peser, envahir le Japon, une ouverture vers des pensées occidentales.
Exactement.
Par exemple.
Oui, ouverture d'abord à l'économie occidentale et aussi à la pensée occidentale. Oui, en effet.
Alors ce point, je voudrais qu'on le creuse un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a eu des penseurs qui étaient aux Pays-Bas, qui ont importé des modes de réflexion occidentaux. Par exemple, le positivisme, qui est une école née en France, Auguste Comte, au XIXe siècle, a eu beaucoup de succès au Japon. Est-ce que vous diriez, Frédéric Girard, que pendant ce XIXe siècle du Meiji, modernité voulait un peu dire influences occidentales grandissantes en matière d'idées?
Il y a eu un apport considérable de connaissances, de textes qui ont été traduits des langues occidentales en japonais, à commencer par le hollandais, évidemment.
Pourquoi évidemment? J'ai pas très bien compris. J'ai vu ça, mais j'ai pas très bien compris. Pourquoi ce lien privilégié avec les Pays-Bas?
Vous avez une histoire de la philosophie occidentale qui date de 1831, rédigée par Takano Choei et qui était un hollandisant. Donc le hollandais était pratiquement la seule langue de communication avec l'Occident durant l'époque des Tokugawa du XVIIe au XIXe siècle. C'est comme cela que le Descartes et le cartésianisme a été connu de façon très 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 détaillée au XVIIIe siècle au Japon et a constitué un mouvement de pensée. Mais ce Descartes-là, qui était mécaniciste à l'origine, est devenu fluidifié en quelque sorte, là où l'homme était réduit à une machine, les Japonais ont introduit des fluides, ont traduit Descartes d'une façon faussée pour adapter à leur propre système de pensée, et donc on ne peut pas dire que le tout que l'Occident a commencé à être connu à l'époque Meiji, il l'a été avant,
oui, mais
de façon parcellaire et à titre de philosophie naturelle, donc de physique, de physiologie. Et non pas sous tous ces aspects.
Alors, oui, mais, pardon,
simplement, Meiji marque les années 1850, à partir des années 1850, jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a une introduction massive de textes, et puis la volonté formelle des Japonais de constituer un système de pensée japonais et qui soit le pendant de la philosophie occidentale et du christianisme. Donc c'est la raison pour laquelle on a instauré à l'université impériale de Tokyo une chaire de philosophie indienne et bouddhique qui subsumait dans le fond le concept de philosophie orientale, sous ce terme un peu barbare, indienne et bouddhique. Et on a voulu constituer un système de pensée équivalent à la philosophie gréco-romaine et au christianisme.
Alors, il paraît que c'est peu, enfin, oui, pratiquement au début de l'ère Meiji qu'un penseur japonais, je crois qu'il s'appelle Nishiyaman, mais vraiment, c'est vous les spécialistes. Moi, je ne fais que vous donner des noms qui sont arrivés dans mes lectures pour préparer cette émission. Ce serait lui, donc, qui aurait inventé le mot japonais qui est censé traduire le mot grec philosophie. Alors, si je ne parle pas du tout, hein, donc je crois que ça se lit Tetsugoku, c'est ça?
Tetsugaku.
Tetsugaku.
Oui.
Alors, c'est vrai, ça? C'est seulement
oui.
là qu'on
alors,
emploie ce mot?
Alors, il s'appelle Nishi, c'est son nom de famille. Amane, c'est
Amane.
Son prénom.
Amane, d'accord.
Amane, son prénom.
Donc, ça n'existait pas avant, c'est ça ma question. La philosophie, alors, ça n'existait pas avant.
Non, ça n'existait pas. Alors, là-dessus, bon, il faut savoir que ce n'est pas le premier mot qui a été forgé pour traduire philosophia. Philosophia a été traduit pendant un certain moment par un mot qui tetsugaku. Qui, c'est, ça veut dire aspirer, désirer. Tetsu, c'est le savoir, la sagesse. Gaku, l'étude. Voilà, l'étude de l'aspiration à la sagesse, mot à mot. Voilà.
Et donc, ce nouveau mot, peut-être, de Nishiyamane.
Alors, Nishiyamane,
ensuite. Plus occidentalisé, justement, comme vision des choses, de la philosophie.
Oui, parce que, de qui Tetsugaku? Ensuite, Nishiyamane a imposé un autre, le mot plus court, mais ce n'est pas le même sens tout à fait, de Tetsugaku. C'est l'étude du savoir. L'étude du savoir le plus haut, si on veut. C'est ce sens-là. L'aspiration, il n'y en avait plus. Du désir, avec la suppression de qui. Qui bon le qui. Hein. Donc, alors, pourquoi? Parce que ça reste. Bon, on parlait du continuum, vous parliez du continuum tout à l'heure.
Positiviste d'Auguste Comte,
oui. Oui, parce que la philosophie d'Auguste Comte était un peu à l'époque la grande philosophie, la dernière qu'il fallait suivre, si on veut. Et donc, cette idéologie comtiste a été un petit peu empruntée par les Japonais. Et il fallait pour eux, justement, à l'image d'Auguste Comte, développer une philosophie qui fait le pendant de ce qu'avait développé Auguste Comte en Occident, etc. La philosophie, elle était conçue à l'époque, non pas comme une philosophia, une inspiration à la sagesse, mais comme une étude de la étude du savoir le plus haut, donc, et pratiquement avec un statut de pseudo-science ou de presque scientifique. Alors pour eux, il fallait pratiquement arriver à la science. C'était une science. Entendu. C'était une gaku. Voilà.
D'accord. Alors, donc, cette modernité de l'ère Meiji, ce n'est pas faux de dire que c'était une ouverture à des pensées occidentales, et on le payait cher, puisque après, dans un autre moment fascisant, hein, on peut le dire, les années 30 au Japon,
oui.
C'est peut-être même le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas, on va vouloir abolir tout cela, se recentrer sur quelque chose comme la tradition japonaise. Or, cette tradition... Ces traditions, elles sont elles-mêmes des élaborations depuis toujours à partir d'apports extérieurs. Sur ce point, et pour revenir donc un peu en arrière, je vous propose d'écouter quelqu'un qui s'appelle Eiji Hattori, qui en 1991, date de l'extrait sonore de France Inter que vous allez entendre, était secrétaire exécutif du programme des routes de la soie de l'UNESCO.
Ce qui est mal connu chez les Occidentaux, c'est que le Japon laissait la fenêtre ouverte. Toujours qui est Nagasaki, même pendant cette fermeture de pays, Nagasaki était ouvert aux Hollandais. Donc toutes les sciences, la médecine et toutes les connaissances de l'Europe pénétraient par cette fenêtre. Et que même le shogun Tokugawa, qui est basé à Edo, actuel Tokyo, envoyait les étudiants à Nagasaki. Donc, mi-19e, c'était déjà prêt à absorber la connaissance européenne. Il y avait déjà le dictionnaire japonais-hollandais, par exemple. Mais l'autre chose, peut-être, c'est une religion unique au Japon qui est Shinto. La Shinto était origine de Shinto. La Shinto antique était chamanisme. Et cette rite chamanistique, qui est donc une sorte de communion avec la nature, et la nature est habitée par la divinité. Hein? Donc, entre l'être humain et la divinité naturelle, il y a un moyen, médium, qui fait la liaison. Donc, Shinto est devenu un état d'âme, pour moi et pour tous les Japonais, dont les principes se résument en deux mots clés, harmonie et la pureté.
Alors, comme vous l'avez entendu, il y a deux parties dans ce propos d'Eiji Hattori. La première partie, on en a parlé, c'est cette ouverture du Japon sur l'Occident, ce lien privilégié avec les Pays-Bas dont vous m'avez parlé juste avant, Frédéric Girard, depuis assez longtemps. On a, je crois, évoqué ce point. Mais il y a une deuxième partie que vous venez d'entendre de cette intervention qui revient vers quelque chose qui semble être une grande tradition japonaise, le shintoïsme. Et là, je voudrais vous poser directement la question, vous connaissez cela très bien, Frédéric Girard, qu'est-ce que c'est Shinto? Qu'est-ce que ça veut dire?
Le terme même, c'est la voie des esprits. Et par exemple, au 8e siècle, cela désignait le bouddhisme, qui était considéré comme étant la voie des esprits. C'est ensuite seulement à partir du Moyen-Âge que de façon... par imitation avec le bouddhisme, on a fait du Shinto le culte des divinités du ciel et de la terre, centré sur la personne impériale, puisqu'il y a continuité entre la personne impériale et les divinités, une continuité généalogique. Mm-hmm. C'est un point qui n'existe pas en Chine. En Chine, l'empereur est un représentant des divinités mythologiques, mais au Japon, il est en filiation directe et ininterrompue. C'est pourquoi les Américains ont bien fait de ne pas destituer l'empereur Hirohito après la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, il détruisait tout un système de pensée qui pouvait être catastrophique pour eux-mêmes aussi. Mais ce Shinto, donc, est une, en fait, tel qu'il s'est constitué historiquement.
Donc, le sens du mot, c'est Shinto, c'est.
Shinto, c'est la voie des divinités. C'est devenu, le sens est devenu, au cours du temps, la voie des divinités et non plus la voie des esprits. Et il est entré en symbiose avec le bouddhisme. Et par imitation avec le bouddhisme qui s'était constitué en courant très, très puissant depuis l'Antiquité, on a institué aussi le Shinto comme doctrine qui s'est illustrée à travers diverses traditions familiales. Mais à l'origine, le ministère des divinités était plus important que le ministère qui concernait le bouddhisme. Donc le Shinto a toujours été plus important administrativement, si l'on veut, en tant que représentant de la tradition impériale que le bouddhisme.
Donc si je vous comprends bien, le bouddhisme, né en Inde, dans l'Antiquité, ayant des parcours à lui, en Extrême-Orient, il arrive au Tibet, on a consacré une émission entière au bouddhisme tibétain dans cette série, arrivant à partir du 8e siècle, après Jésus-Christ, a aussi a marqué le Japon, mais qu'il a réélaboré pour en faire quelque chose vraiment à lui. Le shintoïsme, c'est le bouddhisme japonais, ou bien il y a le bouddhisme japonais, et puis il y a encore le shintoïsme qui réélabore ce bouddhisme déjà spécifique qu'est le bouddhisme japonais.
À mon avis, il y a quand même le bouddhisme d'un côté, le shintoïsme de l'autre, parce qu'ils se sont institutionnalisés de façon indépendante. S'il y a eu des interférences, c'est parce que des concepts communs ont été partagés des deux côtés. Tout de même, historiquement, les deux sont largement indépendants. Pour revenir à cette question de Meiji, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Meiji? C'est que l'empereur n'a jamais été dénié. L'empereur, c'est celui qui, à l'origine, possède le pouvoir sur la production à la fois agricole et maritime. Et c'est pourquoi il est né de deux divinités, l'une sous-marine, l'autre montagnarde. Et c'est celui qui possède un pouvoir culturel, bun, en temps de paix, et militaire, en temps de désordre. Le terme de guerre n'existe pas dans le Japon ancien. Il a été, si l'on veut, importé malheureusement à la fin du 19e siècle. Et donc l'empereur, à partir du 8e siècle, a délégué le pouvoir militaire à des familles. Donc en fait, les shoguns dont on parlait tout à l'heure, ce sont des délégués. Et dont la mission est de restituer l'ordre là où il y avait du désordre.
Je vous en prie, allez-y. Oui, Jacques Joly, quelques précisions sur tout cela.
Oui, enfin, précisions non, parce que Frédéric est beaucoup plus compétent que moi à la matière, mais pour illustrer un peu son propos, d'ici quelques jours, par exemple, il y a une fête nationale au Japon, qu'on appelle le Kigensetsu, c'est la fête de la fondation de l'Empire, 660 avant Jésus-Christ, vous voyez, dont par l'empereur Jimmu, qui est naturellement un empereur mythique, mais dont la filiation est ininterrompue jusqu'à l'empereur actuel. Voilà.
D'accord. Alors, bon, je vais essayer de prolonger un peu cette réflexion avec vous pour comprendre mieux, par exemple, la notion de zen, qui est, par les Occidentaux, une des mieux connues. Mais finalement, est-ce qu'on sait bien de quoi on parle quand on évoque le fait d'être zen au sens des Japonais? C'est un mot chinois, qui a d'ailleurs lui-même une transcription du mot sanskrit dhyana, puis ça a été repris par les bouddhistes japonais. Tout ça, vous allez me l'expliquer. Il y a la notion de dépouillement qui est proche, je crois. Je voudrais comprendre tout cela. Écoute, apporté pour introduire notre développement sur ces points. Écoutez une archive de France Inter de 1982 où on y entend le professeur Nada.
Je trouve que les Japonais deviennent très enfantins. D'ailleurs, même les Occidentaux aussi, les gens de temps moderne deviennent un peu enfantins. Nous fabriquons beaucoup de gadgets. C'est le jouet pour les enfants, n'est-ce pas? Par exemple, la voiture pleine de gadgets. Alors, Honda a fabriqué, par hasard, une voiture qui est vraiment simple et sans gadgets. Cette voiture, très bon marché, qui se vend très bien en ce moment. C'est la renaissance de bon sens. Nous serons obligés de trouver la simplicité. Et nous redevenons philosophiques. Mais les Orientaux, dans ce domaine, nous avons beaucoup d'expérience.
Est-ce que ça veut dire, après le miracle économique, le miracle zen?
Bien sûr.
Le miracle zen. On voit bien sa force critique par rapport au capitalisme et à une certaine modernité. Mais qu'est-ce que c'est à l'origine, si ça a du sens de poser la question comme ça, zen? Je ne dis exprès pas zénitude, qui est franchement le mot des Occidentaux pour en parler, une espèce de drôle de fabrication. Mais zen, c'est quoi pour un Japonais, Frédéric Girard?
Le terme même de zen est un terme qui est, comme vous l'avez dit, qui reste une transcription du sanskrit. Donc on ne le traduit pas.
On dit dhyana alors, quand on parle sérieusement du sujet?
C'est une façon de parler.
Le mot sanskrit?
Soit dhyana, mais qui est un petit peu, ça sonne un petit peu barbare pour nous, ou alors chan. Mais en tout cas, mieux vaut ne pas traduire, surtout pas par méditation, à mon avis.
Ah bon?
Parce que bien sûr, il y a des exercices de méditation, mais ce ne sont que des exercices préliminaires pour débutants. Et les courants du zen et de l'école Jodo Shinshu sont relativement liés entre eux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils tous les deux ne veulent plus entendre parler de transmigration, d'un salut reporté à un avenir illimité, comme cela est le cas en Inde ou au Tibet.
Et de ce point de vue-là, c'est un amendement du bouddhisme?
Ah, complètement. Les Japonais sont friands de salut immédiat, de libération immédiate.
C'est peut-être pour ça que les Occidentaux, ils aiment bien zen. Parce que ça les renvoie à leur propre goût d'aller vite et efficacement.
Oui,
c'est ça?
On ne parle que du présent, si l'on veut, et non pas d'un avenir. Dès que l'on parle d'avenir, c'est que l'on fait une projection mentale. Et le fait de projeter mentalement, c'est déjà reporter à plus tard ce qui doit être fait maintenant. Donc, c'est ce qui est commun entre le zen, que je suis désolé de parler un peu abstraitement, mais pour le zen, le corps de la loi est le seul corps de Bouddha qui existe. Il n'y a pas de corps transformationnel, de corps de rétribution, etc., etc. Tout est réduit à l'incarnation immédiate que l'individu a à faire du dharma, de la loi. Pour cela, il importe, si méditation il y a, il importe d'évacuer, de faire table rase de toutes les idées préconçues, les idées fixes, les idées que l'on peut porter sur quelqu'un. Donc le zen étant tel qu'il est conçu dans les écoles de façon authentique, est d'abord action altruiste. Si j'essaie d'expliquer, de le dire assez simplement, c'est que si vous portez sur une personne l'idée, par exemple, que c'est un repris de justice, eh bien, vous allez influer sur cette personne qui aura aussi conscience d'être repris de justice. Et la communauté autour va dire, tiens, c'est un repris de justice. Et on se comportera vis-à-vis de lui d'une façon différente que si on a l'esprit vierge, je dirais, et qu'on le voit sous un œil neuf. Donc le zen a cette particularité d'évacuer tous les doutes. On part d'abord d'un doute et on évacue pour faire table rase. Donc la méditation, c'est plutôt un grand balayage, si l'on veut.
Alors il y a une autre chose que les Occidentaux connaissent parfois, mais encore une fois peut-être très mal. Il me semble que ça fait partie d'une réflexion sur le zen ou d'une pratique même, c'est la cérémonie du thé. Alors vous êtes un très grand connaisseur, Frédéric Girard, vous avez traduit et commenté dans la Revue philosophique en 2017 un texte à propos de la cérémonie du thé, je crois que c'est un texte de fin 18e, début 19e, vous me repréciserez les choses. Je vous propose, pour nous mettre dans l'ambiance, d'écouter cette fois-ci un extrait sonore. C'était sur France Culture, en 1993, dans La matinée des autres, et on y entend une professeure de l'université Paris-Cité qui s'appelle Cécile Zakaille.
Après avoir effectué la purification de boîte qui contient le poudre de thé, la purification de cuillère, Maître Iwaki est en train d'effectuer la vérification de fouet. Et si vous voulez, tous ces gestes sont codifiés. Et les gestes, voulez-vous manger le gâteau? Et comme la cérémonie de thé à l'origine célébration religieuse qui a été pratiquée en Chine, 8e, 9e siècle, et les intellectuels à cette époque, les Japonais qui ont regardé cette célébration, revient avec la première plante de thé. Et le but ultime de la cérémonie de thé, c'est apaiser le soif de corps et en même temps celle d'esprit. Et il faut que, j'espère que vous arrivez à sentir l'harmonie avec l'invité, l'harmonie de choix d'ustensile, le respect, le non seulement vis-à-vis des êtres humains, mais aussi pour les objets. C'est Wabi et Sabi, et les gens disent que c'est la quintessence de notre civilisation japonaise. On calcule tout, mais tout doit être fait en spontanéité totale.
On calcule tout, mais tout doit être fait dans une spontanéité totale. C'est difficile hein, à comprendre. Expliquez-nous un petit peu, Frédéric Girard.
Le terme de cérémonie du thé, bon, on peut l'employer, mais il s'agit en réalité d'une pratique sommaire à l'origine. L'idée, il faut dire un mot du bouddhisme japonais en général, c'est que depuis l'Antiquité, le bouddhisme japonais s'est ésotérisé. Donc on a pratiqué on a pratiqué toutes sortes de cérémoniels. Et on a fait étalage de beaucoup de ce qu'on appelle kazari, d'ornementation. Les temples ont été agrémentés de décorums qui servaient en réalité à asseoir un pouvoir politique. Les maîtres de thé sont issus d'un courant zen, cela a été mis récemment en évidence, qui se fonde sur l'idée que c'est l'esprit ordinaire qui est la voie. Shyōjōshin Zedō, en japonais. C'est un mot très célèbre attribué à Matsu, un maître chinois. Il faut en revenir à la quotidienneté. Donc, à côté du décorum qui encombre les temples bouddhiques qui sont associés à la noblesse de cour, des maîtres de thé qui sont issus des écoles zen médiévales ont voulu retrouver comme lorsque quelqu'un vous invitez quelqu'un, vous lui offrez du thé, vous nous donnez un café, ça n'est rien de plus que cela. Et ces maîtres de thé ont été des personnages marginalisés, et ils ont finalement mis des cérémoniels, surtout autour de la personne de Senno Rikyū, qui soit indépendant du pouvoir politique autant que possible. C'est pourquoi beaucoup ont mal terminé, ont été obligés de faire seppuku, parce qu'ils...
C'est-à-dire
de se suicider, par le de s'éventrer, parce qu'ils étaient suspects de... Ils étaient... pour moi, la cérémonie du thé telle qu'elle est entendue, c'est un esprit de communion entre personnages, entre amis intimes. C'est cela qui se produit. On se revoit, comme maintenant je revois Jacques Joly.
Alors, on va lui passer la parole à Jacques Joly. Parce que maintenant, je voudrais qu'on aborde cette période que vous connaissez très très bien, qui est celle qu'étudiait Maruyama, ce penseur très important du XXe siècle, l'époque d'Edo, qu'on appelle aussi l'époque des Tokugawa. Maruyama dit que donc entre le début du XVIIe siècle et le milieu du XIXe, s'est inventé là quelque chose d'unique, d'un moment inédit dans l'histoire du Japon, où on a vu affleurer, dit Maruyama, vous nous direz ce que vous en pensez, presque un principe de subjectivité, pour reprendre un terme de Hegel, qui est en tradition occidentale, puisque c'est au même moment que quelque chose de très fort en Occident s'affirme, de reconnaissance de l'individu et de la subjectivité. Jacques Joly, s'est-il passé la même chose au Japon, pratiquement à la même période?
Il a failli se passer la même chose, mais pas tout à fait. Ce que montre Maruyama, ce qu'il voulait montrer, surtout, c'était que, bon, si on revient en arrière à ce fameux colloque sur le dépassement de la modernité.
En 1942,
c'était le moment où il écrivait en fait les articles qui ont été réunis sous le nom des essais sur l'histoire de la philosophie au Japon. Il a voulu montrer que c'était pas la peine d'aller essayer de dépasser une modernité occidentale. Le Japon aussi, de certaine façon, n'avait pas été moderne, mais avait un peu flirté avec la modernité, si on analyse certaines productions littéraires, philosophiques, etc. Si on analyse d'abord, il a montré que l'époque d'Edo, c'était une époque de remise en question du néo-confucianisme. Alors, le néo-confucianisme, je ne veux pas revenir sur hier, bien sûr, mais c'est tout un système philosophique, on peut dire, dont le principal représentant, mais pas l'unique, bien au contraire, c'est Chu-Si.
Chu-Si, il vit au...
Qui a vécu de 1130
au 12e siècle.
Oui,
12e. Il est chinois.
Il est chinois,
c'est
oui.
C'est le Thomas d'Aquin chinois, en dit-on parfois. Bon, ça, c'est les Occidentaux, vous savez
oui.
Comment ils sont. Hein.
Oui, voilà.
Mais là, on est bien avant la période dont on parle. Est-ce qu'il s'est passé, du coup, avec cet apport rationaliste?
Oui, parce que je vous en parle, parce que cette philosophie néo-confucéenne a été la philosophie officielle enseignée dans les écoles shogunales au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et peu à peu, il y a une réaction à cela par plusieurs penseurs qui ont remis en question, selon Maruyama, ce néo-confucianisme. Ogyu Sorai est le premier.
Alors, Ogyu Sorai, nom très important.
Très, très important.
Donc, qui vit quand?
Qui vit à la fin du XVIIe, début XVIIIe.
Donc là, on est en plein dans la période dite d'Edo.
Oui, à peu près au milieu, voilà.
Tokugawa.
Voilà. Donc il va montrer que un penseur comme Ogyo Sollai et d'autres ensuite qui l'ont suivi, parce qu'il a fait école, bien sûr. Non seulement ont remis en cause ce néo-confessionnalisme, mais au nom d'une pensée beaucoup plus libre, au nom surtout de la mise en avant de personnalités historiques, pour l'époque, qui étaient les anciens rois du confucianisme, les saints, ce qu'on appelle les saints du confucianisme, qui sont des personnages mythiques, mais qui sont pas considérés comme tels à l'époque, bien sûr, mais qui ont surtout inventé la culture en général. Un tel a inventé l'agriculture, l'autre a inventé les textes, etc. Bon, bref. Et voilà. Et ils l'ont inventé. Surtout, ils n'ont pas suivi des lois ou des règlements qui venaient soit d'en haut ou d'ailleurs. Hein. Non, c'est leur propre personnalité qui a compté. Alors, sont des sujets libres qui ont inventé
un principe de subjectivité.
Voilà.
Alors, qui semble évoquer des choses qui se sont passées en Occident, attention.
Voilà, ils ont illustré les premiers ce principe de subjectivité libre. Et Maruyama, ce qu'il voudrait, c'est que la mission qu'il donne un petit peu à ses contemporains, c'est d'une certaine façon de faire comme on fait les anciens rois du confucianisme, hein, c'était devenir des subjectivités libres.
Pour Maruyama, ça a un sens précis. Lui, il est au XXe siècle, il étudie cette période.
Oui.
Et évidemment, lui, il est dans une situation où il a à faire face à un pouvoir autoritaire, à un ultranationalisme militarisé japonais dans les années 1930-1940.
Oui.
Et donc, c'est normal qu'il ait envie qu'on aille
regarder.
Bien sûr,
c'est normal. Mais alors, années 40, voilà, il fait encore, enfin au début des années 40, pendant la guerre du Pacifique, c'est quelqu'un qui fait résistance, qui résiste,
oui,
au fascisme, etc. Si vous me permettez d'emboîter sur après la guerre,
bien sûr.
Justement, après la guerre, vous savez que cette démocratie japonaise, comme on dit, elle est tombée du ciel, hein, celui qu'on appelle le shogun MacArthur, hein, le dernier des shoguns.
Ah, voilà.
Ce n'est pas pour autant que les Japonais ont l'esprit démocratique, bien sûr. Hein, l'esprit démocratique, on le sait, nous en Occident, ça se cultive, ça a mis des centaines d'années à l'avoir. Bien.
Vous voulez dire qu'il faut plus que juste avoir élaboré les prémices d'un principe de subjectivité, un principe d'individu.
Il faut d'abord ce principe de subjectivité. À la fin de la guerre au Japon, il y avait les textes, il y avait la nouvelle constitution pacifiste, qui est un petit peu le joyau du Japon, je pense. Hein. C'est sur l'article 9 qui abolit la guerre, bien sûr. Pour Maruyama, donc, il y avait, comme vous dites, cette subjectivité, mais cette subjectivité autonome, il y a un mot en japonais, c'est shutaisei, cette subjectivité autonome qui a alimenté la plupart des discussions philosophiques du Japon d'après-guerre, justement, mais il n'y a pas que Maruyama, il y en a beaucoup d'autres, mais lui en a été un des principaux théoriciens. Cette subjectivité autonome doit accompagner ce qui a été donné, c'est-à-dire dans la démocratie. La démocratie, c'est pour Maruyama, c'est trois choses. Alors, c'est cette subjectivité autonome, mais au service d'une lutte de tous les jours pour la démocratie. Et non pas simplement des textes de loi. La constitution est démocratique, oui, mais ça ne suffit pas. Maruyama a appris très tôt que ça ne suffisait pas. Il l'a appris avant-guerre. Alors, ce sont des anecdotes sur lesquelles j'ai pas le temps de... Mais si on parle de l'après-guerre, cette subjectivité autonome qui était le thème principal et qui va de pair, mais qui est même plus que de pair, qui est indissociable de la démocratisation.
Oui. Hein,
voilà. Et, ça, donc, et qui est indissociable ouais. aussi de la modernité.
Et est-ce que ça a marché? Est-ce que le Japon, fort du fait qu'il avait, vous le montrez très bien dans la suite de Maruyama, développé l'idée d'individu dans cette période du 17e au milieu du 19e, avec cette figure importante qui est Sorai, il y a une réflexion sur la rationalité, sur l'individu. Est-ce que tout cela a pu être mobilisé après la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment l'influence américaine que vous avez aussi signalée, pour produire quelque chose qui est une vraie pensée de la démocratie et une vraie pratique de la démocratie?
C'est ce à quoi Maruyama appelle justement pendant toute l'après-guerre, hein, avec un certain échec bien sûr dans la population japonaise bien sûr, parce que sans des choses, la pratique de la démocratie pour nous c'est quelque chose d'évident, ça n'était pas pour eux à l'époque, si tant est que ça le soit maintenant.
Et aujourd'hui, oui.
Oui, si tant est que ça le soit maintenant aujourd'hui, c'est. Je n'habite plus au Japon, malheureusement, je ne peux plus tellement vous dire. Mais il faut quand même signaler que je vous parlais de cette de modernité, démocratie et subjectivité autonome. Maruyama et beaucoup de Japonais vont trouver justement une occasion de mettre en pratique ces idées-là, c'est dans le pacifisme.
Dans l'idée pacifique.
Dans les idées pacifistes. Maruyama a été un très grand pacifiste. Oui. Bon, il avait tout pour l'être. Vous savez que dans les années 1945, il a été mobilisé à Hiroshima. Il a pu survivre grâce justement à l'ombre portée par un immeuble qui l'a vraiment sauvé.
Il a été très malade tout de
suite. Il a été très malade. Il a passé la moitié du restant de sa vie dans les hôpitaux. Et le pacifisme, c'était l'occasion inespérée pour le peuple japonais d'affirmer sa propre subjectivité, autonome, suivant des valeurs. Alors, il faut, on est quand même entre philosophes, alors ce n'est pas seulement sur l'histoire des idées, c'est aussi de la philosophie, parce que il y a la philosophie de Maruyama qui n'a pas inventé de philosophie, pas du tout, c'était pas son genre, mais il avait une philosophie qui le mettait en pratique, c'est le néo-kantisme.
Le néo-kantisme.
Néo-kantisme.
Le rapport à Kant.
Voilà.
Kant japonisé.
Importé, mais en fait surtout le néo-kantisme. Alors d'abord de l'école de Heidelberg, à l'école de Bade, c'est-à-dire pas celui de Cassirer, qui est un peu moins mal connu en France, disons, mais celui de philosophes comme Rickert, par exemple,
oui.
Comme Windelband, avant Rickert, qui, au Japon, ont été popularisés dès les années 20 et 30. Vous voyez, Rickert disait qu'il était plus connu au Japon qu'en Allemagne. Et ce néo-kantisme, c'est donc résumer un peu le néo-kantisme de l'école de Bade, c'est un peu compliqué, mais disons que l'homme, toute activité humaine est tournée vers des valeurs, tout est valeur en fin de compte, et des valeurs que l'homme choisit lui-même. Alors, appliqué à la réalité japonaise, le pacifisme, c'est un peu ça.
Entendu.
L'homme se choisit les valeurs pacifistes et choisit de vivre selon ces valeurs.
On peut pas parler de tout. Il faut aussi dire, il faudrait dire dans une émission idéale qui durerait toute la matinée, que, par exemple, il y a eu une introduction du marxisme aussi, que vous racontez très bien. Je dis juste aux auditeurs, un marxisme assez ouvert au fond et qui n'était pas justement dogmatique, quelque chose d'orthodoxie, et donc qui s'est marié au fond il y a ce néo-kantisme. C'était pas forcément contradictoire, c'était pour penser les choses librement, n'est-ce pas? Vous opinez du chef, ça me fait très plaisir, parce que je suis obligée de résumer, on peut pas y aller. Je voudrais, pour terminer, on peut pas en parler en détail, Frédéric Girard, Restons sur aujourd'hui, ou sur, disons, aujourd'hui, ou depuis quelques décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a-t-il maintenant une vraie culture démocratique ?
C'est ça, je ne suis pas sûr. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de très démocratique au Japon quand on y vit. Je trouve peu d'obstacles dans ce que l'on peut entreprendre. Les gens les plus fortunés vous ouvrent la porte. Ça m'est arrivé de façon assez stupéfiante. Enfin, et il y a pas de différence notable entre l'intérieur d'une personne très fortunée et une personne qui ne l'est pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait véritablement de démocratie. Je crois que les Japonais ne croient, et il me semble que les Japonais ne croient, n'espèrent pas autant du domaine politique que nous. Et ils comptent plus sur eux-mêmes que sur le politique. Et c'est pour eux une sphère particulière qui se reproduit elle-même et qui n'a pas grand-chose à faire avec la vie quotidienne, je crois, de tout un chacun. Je pense qu'il y a vraiment un mode de vie que les Japonais aiment bien cultiver pour eux-mêmes, pour lui-même.
Jacques Joly, je crois, voudrait ajouter quelque chose.
C'est une forme de démocratie différente, je pense.
Entendu. Ce sera le dernier mot, Jacques Joly.
Exactement ce que critique Maruyama.
Ah, il trouve que c'est pas assez.
Le Japonais qui vit dans une sorte de marée, comme ça, un peu, mais qui ne développe pas lui-même positivement de ses propres valeurs. Voilà.
Vous entendez une chanteuse qui, je crois, est aussi une actrice japonaise, Kuniko Yamada. Et cette chanson est traduite par « Allons philosopher, faisons de la philo ». Voilà, paraît-il. Mais je serais bien incapable de vous le confirmer moi-même, et c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, un très grand merci à vous deux, Frédéric Girard et Jacques Joly, pour cette réflexion sur les grands courants de pensée japonais. Les références de vos travaux, très érudits, sont précisées sur le site de notre émission. À présent, voici la chronique de Frédéric Worms de cette semaine, où il s'interroge sur le pouvoir de la règle. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi la régulation est-elle controversée ? La question de la régulation a toujours été au cœur de controverses parmi les humains. Le pouvoir de la règle est-il légitime ou arbitraire ? Est-il fondé sur la chose même ou est-il fondé sur une convention et même une domination entre les êtres humains ? Mais aujourd'hui, la question de la régulation semble elle-même devenue l'objet d'une controverse très violente. La notion de régulation devenant pour les uns un repoussoir absolu, l'idée d'une domination extrême dans les parties les plus sensibles de la vie humaine, d'un côté, et d'un autre côté, la question de la régulation étant devenue absolument vitale pour les uns, pour les autres, pour ceux qui défendent l'idée que la régulation sociale est aussi nécessaire et vitale que pour les organismes vivants, pour les organismes individuels, même si elle doit procéder avec d'autres moyens. Pourquoi cette question de la régulation est-elle devenue si controversée, si dangereuse, au point que la controverse sur la régulation dans le monde entier semble elle-même appeler une régulation ? C'est pour une raison très simple et en effet très, très grave et très profonde. C'est parce que la critique de la régulation, qui a pu être menée du point de vue d'un libéralisme économique d'une manière générale, en accusant les règles sociales, même si c'était au nom de la justice et d'un équilibre d'une société humaine toujours complexe, de brider les libertés, cette critique de la régulation touche désormais au cœur de ce qui peut paraître la liberté humaine la plus profonde, celle qui ne doit être le moins limitée, la liberté d'expression. La liberté d'expression est elle-même aujourd'hui l'enjeu de règles non seulement politiques générales, mais qui touchent à des techniques très particulières. Il ne s'agit plus seulement de limiter le pouvoir mortel de certaines paroles, l'incitation à la haine ou l'appel au meurtre en général, mais de limiter des supports techniques, économiques, très puissants qui propagent des paroles qui, en effet, comme toutes les paroles humaines, peuvent en effet avoir aussi des dangers mortels et doivent donc être régulées. Mais cette liberté d'expression qui passe désormais par les enjeux de la liberté économique et politique, qui semble soutenir des paroles humaines dans leurs expressions les plus libres, qui semble ne rien changer à la question de la liberté d'expression à travers cette différence des moyens, cette liberté humaine qui semble touchée par la régulation politique parce qu'elle devient un pouvoir extrême, cette liberté humaine est revendiquée par certains, la régulation devenant un repoussoir et le signe d'une tyrannie absolue. Pourtant, on voit bien dans l'enjeu lui-même que la régulation minimale des paroles humaines, quand elles deviennent des instruments de pouvoir sur des sociétés entières, sur des sociétés nationales et internationales, cette régulation est au contraire plus nécessaire que jamais. Bien entendu, il faut, comme le disait Canguilhem, il ne faut pas la fonder sur une sorte de mimétisme de la régulation d'un être vivant, il ne faut pas la fonder sur une nature absolue des choses, mais plutôt sur la manière dont les humains doivent inventer des techniques minimales pour éviter le pire absolu, même dans le domaine de la parole, quand elle fait l'objet en effet non seulement d'une liberté mais d'un pouvoir, la régulation est alors le contre-pouvoir minimal qui permet toutes les libertés du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bélois et Nassim El-Kabli. Et un au revoir chaleureux à Philippine de Bélois qui vient de terminer son stage parmi nous. Merci aussi au reste de l'équipe, Antoine Ravon, Carla Michel, Anna Folpin, Chaïma Giboire et Armance Bourquin. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !